Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le forum de la presse, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez, notamment avec les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, pour analyser l'actualité de la semaine. Dans l'actualité de cette semaine, dans le domaine de la presse nigérienne, nous reviendrons d'une part sur l'interpellation d'Ali Soumaïna, promoteur du journal Le Courrier, d'autre part du décès de Maman Abou, promoteur et directeur de publication du journal Le Républicain. Sur le plan politique, nous aborderons la question de la demande formulée par l'Alliance pour la paix et la République, APR, en vue de la convocation d'une session extraordinaire du Conseil national du dialogue politique. Enfin, sur le plan sécuritaire, nous irons à Maradi pour parler d'une importante saisie d'armes de guerre opérée par la brigade de la gendarmerie de Guidan-Rumji. Pour en discuter, nous avons invité nos confrères Maimouna Diado, journaliste freelance. Maimouna, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir.
Bonsoir.
Et Houssaine Issa, journaliste freelance. Houssaine, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum de la presse. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 17 juillet 2020. Notre premier sujet concerne l'univers de la presse nigérienne. D'abord, l'interpellation du promoteur de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumaïna, par la police judiciaire de Niamey dimanche dernier. Selon son avocat, Maître Ahmed Bakimba Touré, un article sur l'audit du ministère de la Défense nationale, intitulé « Affaires du ministère de la Défense nationale », le dossier aboutit finalement à l'agence judiciaire de l'État, publié le 11 juillet 2020 dans son journal et qui a circulé sur les réseaux sociaux, serré à la base de son interpellation. Par ailleurs, la journaliste et blogueuse nigérienne Samira Sabo est en prison depuis le 10 juin passé suite à une plainte pour diffamation de Sani Mahamadou Issoufou, directeur de cabinet adjoint du président de la République Issoufou Mahamadou. Son procès s'est déroulé mardi et le délibéré est prévu pour le 28 juillet prochain. Je commence avec vous, Maimouna Diado. Finalement, doit-on affirmer que parler du dossier du ministère de la Défense nationale, c'est un risque avéré pour le journaliste au Niger?
Mais c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons parce que tous ceux qui ont été l'un dans l'autre, donc interpellés au niveau de la police judiciaire jusqu'à aller en prison, c'est par rapport au dossier donc, du ministère de la Défense nationale. Mais je pense que ça ne peut pas en fait donner également l'envie à ces journalistes qui veulent faire connaître la vérité en quelque sorte à ces citoyens de relâcher, quoi, de ne pas poursuivre l'enquête, de ne pas regarder, de ne pas investiguer à fond pour pouvoir véritablement dire la vérité. S'il y a la vérité, parce qu'il faut également essayer de ne pas faire deux poids deux mesures dans cette situation du ministère de la Défense nationale. Et donc je pense que, comme tu viens de le dire, c'est pas qu'ils veulent peut-être intimider d'une part ces journalistes qui veulent fouiner ou bien qui veulent investiguer pour aller loin dans cette affaire,
parce que faire connaître peut-être,
parce que peut-être il y a d'autres personnes aussi que nous ne connaissons pas qui sont aussi impliquées dans cette affaire que nous autres citoyens nous ne savons pas, et que peut-être que en faisant des investigations on pourrait arriver à certaines personnes, personnalités. Donc
alors quel impact cela peut avoir sur le rang du Niger dans le classement des Reporters sans frontières,
mais
en termes de liberté d'expression et de liberté de la presse?
Mais on peut perdre des rangs aussi. Le rang déjà, c'est pas, nous connaissons déjà le rang du Niger par rapport donc à la liberté d'expression. Et aujourd'hui, en mettant en l'espace de 1 mois ou en l'espace de 2 semaines, des journalistes soient interpellés à tout bout de champ, je pense que ça n'honore pas le Niger. Ça n'honore pas le Niger du moment où le Niger, nous avons un président qui a signé la table de montagne. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose...
Qui normalement est encouragé à l'abrogation des lois
sur... On devrait encourager, en fait,
sur les questions
de diffamation. Parce que les journalistes, leur place n'est pas en prison, nous le savons très bien. Mais bon, nous sommes aussi au Niger. Hein. Certains journalistes profitent de la situation aussi, tout en oubliant qu'il y a l'éthique et la déontologie à côté,
qu'il faut respecter.
Parce que si tu ne respectes pas l'éthique et la déontologie, donc ça veut dire que tu ne connais même pas en fait le métier de journaliste auquel tu es appelé à faire. Donc, je pense que d'un côté, les journalistes sont appelés véritablement à aller dans le sens de l'éthique et de la déontologie, pour les éviter certaines interpellations. Et de l'autre côté, je pense que le gouvernement aussi n'a pas besoin aujourd'hui d'intimider les journalistes et de les interpeller à tout bout de champ.
Gare Amadou, du quotidien La Nation, comment analysez-vous ces interpellations liées justement à ces dossiers, ces fameux dossiers du ministère de la Défense nationale?
Oui, ce que je constate, c'est que mais en réalité, il y a des gens qui sont un peu coutumiers des interpellations. Et il y a vraiment des questions à se poser sur, effectivement, le respect de l'éthique et de la déontologie. C'est sûr, ce que Mémoun a dit, ces interpellations vont causer du tort au Niger dans le cadre du prochain classement de Reporters sans frontières. Mais on se rend compte que quand même, il y a des journaux qui écrivent sur la même affaire, mais dont les promoteurs ne sont pas inquiétés. Je prends un exemple aussi frappant que l'enquêteur qui a même fait les premières révélations concernant cette affaire-là, dont le directeur n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Parce que même quand tu traites d'un dossier sensible, il y a certaines précautions à prendre. Il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre. Je crois que dans l'article qui a amené à interpeller Ali Soumana, dont je me félicite de la libération, bien sûr, il avait sous-entendu que l'affaire, certains allaient être protégés. C'est pour cela que l'affaire est arrivée au niveau de...
Au bureau de l'agence judiciaire de l'État.
L'agence judiciaire de l'État, voilà ce que je voulais dire. Alors que c'est deux choses différentes. Le processus de remboursement n'empêche pas le processus judiciaire de se poursuivre.
Donc pour vous, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut bien parler de ce même dossier.
Bien sûr.
En prenant les précautions nécessaires, les précautions d'usage, le respect d'un certain nombre. En tout cas,
mais,
de règles.
Le credo d'un journaliste, c'est le respect des règles d'éthique et de déontologie. Si tu respectes les règles d'éthique et de déontologie, c'est difficile que tu aies des ennuis. C'est-à-dire que si tu dis, si tu accuses quelqu'un, c'est que tu as des preuves que tu peux donner. Mais si tu n'as pas de preuves, évite de te créer tes propres ennuis. C'est ça la règle, en fait.
Mais même on pense que aussi avec ces interpellations, c'est certains journalistes qui sont dissuadés d'aller un peu, de fouiller un peu plus.
Ah non, c'est pas certains journalistes. Les vrais journalistes ne seront pas dissuadés. Mais les journaleux, oui. Les journaleux vont être... Parce que c'est des gens qui ne prennent pas des précautions, qui publient des choses à l'emporte-pièce, sans les précautions d'usage du métier.
Bien.
Voilà.
Houssain Issa, qu'en pensez-vous de cette situation?
Moi, je ne vois pas la sensibilité du dossier. Quand même, c'est de l'argent public qui a été dilapidé par quelques opérateurs économiques. Et cette dilapidation, tout le monde sait ce que ça a provoqué. Il y a eu combien de soldats morts? Parce que les armes, les munitions qu'on a livrées à l'armée, c'est des munitions qui ne valaient rien du tout. Maintenant, par rapport à ce que Ali Soumana a publié, en réalité, j'ai contacté Ali Soumana. Les gens sont en train de faire l'amalgame. Quand ils ont pris Ali Soumana, ce n'est pas sur la base de l'article paru dans son journal. C'est l'article a été piqué par quelqu'un pour le mettre sur les réseaux sociaux. Il y a une loi sur la dépénalisation. Maintenant, ils abondent la loi sur la cybercriminalité. Je fais, si c'était le journal qui avait été attaqué, je peux comprendre. Mais un article qu'on voit sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut prendre ton article pour le publier sur les réseaux sociaux et en faire une large diffusion. Est-ce que tu as le moyen de contrôler que les gens ne puissent pas te faire ce coup d'œil-là? Je suis en train de dire, c'est vrai que le dossier effectivement a été transmis au niveau, comment dire, le contentieux de l'État, l'agent judiciaire de l'État. Peut-être la seule omission qu'il a eu à faire, c'est de dire que penser que peut-être que, comment vais-je dire, la poursuite pénale est éteinte, quoi. C'est tout. C'est tout. Mais j'ai dit, il faut que les gens
c'était
fassent attention.
C'était une allusion faite.
Aujourd'hui, oui. Aussi bien les journalistes de l'audiovisuel que les journalistes de la presse écrite aujourd'hui, avec cette nouvelle loi sur la cybercriminalité, les gens sont en danger. Tu produis ton article qui paraît dans le journal, on ne va pas vers le journal, on va sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucun sens. Il faut aller prendre le journal, l'article à sa source, ou l'émission à sa source. Quelqu'un peut enregistrer, par exemple, ton émission là. Il y a quelque chose, hein, quelque chose qui t'échappe. Et sur la base de ça, il va balancer ça sur les réseaux sociaux.
Nous restons toujours dans ce chapitre au Saint-Nissa pour parler du décès lundi 13 juillet dernier d'une grande figure de la presse nigérienne. Il s'agit de Mama Abou, promoteur et directeur de publication du journal Le Républicain et aussi propriétaire de la nouvelle imprimerie du Niger. Que retenez-vous de l'homme si vous l'avez côtoyé et son engagement dans le paysage médiatique nigérien au Saint-Nissa?
Je commence d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées aux membres de sa famille, à ses frères que j'ai connus. Je connais pratiquement nombre de ses frères, je les connais. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2013, en tant que d'abord secrétaire de rédaction au niveau du Républicain, puis directeur de la rédaction. Et je sais que c'est un combattant, un grand combattant de la presse qui est tombé. Il a toujours défendu, comme avait dit, la liberté de presse. Il a tout défendu les journalistes. Et que c'est quelqu'un aussi de très, très, très simple. Très simple, c'est-à-dire il ne se fait pas patron. Il descend, il cause avec tout le monde, il discute avec tout le monde. Il a ce caractère humain-là. Quand vous lui exposez un problème, il vous trouve la solution au problème. Il est très ouvert, ça, c'est des qualités en tout cas qui n'est pas donné à n'importe qui. Au regard de la position qu'il occupait, parce que quand même, c'est pas n'importe qui. Et c'est un des pionniers de la presse privée. Après Haske, c'est le Républicain qui a été créé en juin 1990. Ensuite, il y a eu d'autres journaux qui sont arrivés, mais il a toujours été combattant. En tout cas, par rapport à tout ce qui concerne la presse, il a su mobiliser les gens pour empêcher certaines dérives pendant des années et des années avant qu'il ne tombe. Moi, j'étais là-bas quand il était tombé. Et bon, c'est en 2013, le journal...
Pour cause d'AVC, il avait...
Oui, AVC, moi, j'étais tout à fait. C'est ça, je veux dire, c'est ça les qualités. C'est ça, il a des grandes qualités humaines. Il a des grandes qualités humaines. La presse a perdu quand même un baobab. Grand baobab.
Mais Mouna Diallo, vous l'avez connu? Et que retenez-vous de lui?
Bon, je dirais que je ne l'ai pas trop connu aussi, parce que, en fait, la connaissance que j'ai eue de l'homme, c'est un peu. C'est pas une connaissance très proche.
J'ai travaillé avec lui.
Oui,
mais
voilà, j'ai.
Bon, peut-être juste.
Mais je me rappelle de la lutte que l'homme avait menée au moment où Barré était au pouvoir. Il a été plusieurs fois interpellé. Par rapport à ses écrits, parce que c'est un homme, en fait, qui aime trop dire la vérité et qui n'a pas peur, en tout cas, de nier ce qu'il a écrit, ses écrits. Ensuite, le connaissant de loin également, on sait que vraiment c'est un homme où beaucoup de confrères l'ont côtoyé. Il a aidé beaucoup de confrères journalistes de la presse écrite ou de la presse audiovisuelle. En tout cas, il les a toujours conseillés. Et vraiment, également, c'est un homme où, comme il l'a dit, vraiment, il est prêt à faire tout, en tout cas, son possible, en tout cas, pour ramener les journalistes sur le droit chemin. Et il a été également défenseur des droits de l'homme, parce que il est fait partie des pères fondateurs de la NDDH, il ne faut pas l'oublier aussi.
Avec les Moussa Tchangari, c'est ça?
Oui, voilà, le père fondateur de la NDDH. Et aujourd'hui également, en tant que journaliste, il est parti jusqu'à faire de l'entrepreneuriat, à créer vraiment beaucoup de métiers pour ces jeunes, que ce soit dans sa région, que ce soit également ici à Niamey. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est un homme de qualité. Et c'est aujourd'hui, c'est vrai, nous les journalistes, nous perdons un homme de qualité, un homme qui vraiment a tout donné dans la presse écrite. Et également, c'est le parti aussi, le PNDS Tareya aussi, qui perd aussi un homme. Parce qu'il a lutté, de tous ses efforts, en tout cas, pour mener le PNDS Tareya là où le PNDS Tareya se trouve aujourd'hui. Parce qu'au moment où il combattait, et il faisait en fait ses actions, c'était vraiment dans le cadre politique, mais avec quelque chose différent de la politique que nous faisons maintenant. Parce qu'il a su garder, de par sa plume, dire certaines vérités qui ont bénéficié, dont aujourd'hui, le pain d'Estareille a bénéficié et continue de bénéficier, en fait. Voilà donc ce que je peux dire de l'homme, que son âme repose en paix. Amen. C'est tout ce que nous pouvons dire aussi. Voilà.
Garé Amadou, vous, je crois que vous avez travaillé même avec lui, Garé.
Oui, j'ai collaboré avec le Républicain.
Vous pouvez nous en dire plus par rapport à l'homme.
Oui, j'ai collaboré avec le Républicain pour une bonne période de 1 ou 2 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui le connaît mieux que Ousseini, parce que c'est Ousseini qui a travaillé pendant longtemps au niveau du Républicain et qui connaît très bien. Mais je l'ai côtoyé un peu. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au débat télévisé. Parce que la première fois qu'on s'est rencontré, il me disait, oui, il suit les débats télévisés. Déjà, en ce moment, il était un peu diminué physiquement. Il disait, suivre les débats, c'était très intéressant. Voilà, il encourageait. Chaque fois, quand il voit un journaliste, lui, c'est l'encouragement. Et il ne faut pas oublier une chose. Le Républicain a été pratiquement le premier journaliste, le premier journal d'investigation au Niger. Après, les journaux comme l'Événement sont venus, mais le premier journal d'investigation au Niger, c'est le Républicain. Ça, c'est clair et net, tout le monde le sait. Ouais. Parce que c'est le Républicain qui a dévoilé beaucoup de dossiers, les affaires Zainab, les LAP, les PSOAP, l'affaire Meba, tout ça là. C'est de l'investigation et c'est le Républicain qui l'a mené. Et en ce moment, je crois que Hussein était là-bas. C'était vraiment eux qui ont fait tout ce travail-là. Donc la première investigation, c'était lui. Donc vraiment, on perd, vraiment, comme l'a dit Hussein, un pionnier en matière de journalisme. Quelqu'un qui s'est construit d'abord personnellement, qui a construit son empire, parce que il a révolutionné l'imprimerie au Niger, qui a construit son empire financier, qui a investi au Niger, dans la sous-région, vraiment quelqu'un qui a... C'était l'exemple de la réussite. Et il était resté très simple parce que, comme il l'a dit, il côtoyait pratiquement tout le monde, n'est-ce pas? Et il avait quand même un sens de la rigueur au niveau de l'imprimerie, où il surveillait pratiquement pour que tout le travail soit parfait. Il surveillait chaque étape. Dès que vous rentrez au niveau de l'imprimerie, il est là, il vous demande que vous êtes venu, et puis il vous met en contact, il surveille. Et donc vraiment, le Niger a perdu un grand homme. Et effectivement, comme Memoun l'a dit, le PNDS aussi, pour lequel Mamadou s'est investi, parce qu'au moment, les années d'opposition pratiquement, c'était Mamadou qui gérait beaucoup de personnalités qui sont dans le parti pratiquement.
Alors, Garen, passons au second sujet de notre émission. Dans une correspondance, je le disais, adressée au Premier ministre, président du Conseil national du dialogue politique, l'Alliance pour la paix et la République APR, membre de la majorité présidentielle, a demandé la convocation d'une réunion extraordinaire du CNDP. Cette demande est liée à l'organisation des élections locales au Niger. Je vais vous proposer d'écouter à ce sujet Ousseini Salatou, porte-parole de l'APR, au micro de Mokhtar Hamadou.
La quasi-totalité de la classe politique a dit qu'elle aimerait que les élections locales soient organisées avant les élections présidentielles législatives, c'est-à-dire entre le 6 et le 13 décembre. C'est techniquement, juridiquement, logiquement faisable. Donc nous estimons que la question des élections locales n'a pas été tranchée. Personne ne met en cause l'autonomie et l'indépendance de la CENI, mais nous disons que la CENI a été créée pour la classe politique. La CENI a été créée pour organiser des élections. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'on nous argue, qu'on nous galvaude cet argument de l'indépendance de la CENI. Mais quoi qu'il en soit, le Premier ministre a dégagé sa responsabilité pour dire à la CENI, il te revient de déterminer une date. Mais notre interlocuteur privilégié, c'est le CNDP, c'est le Premier ministre. C'est pourquoi nous lui avons demandé, dans notre correspondance, de reconvoquer une réunion du CNDP pour que cette question puisse être tranchée de manière définitive. Parce que tout le monde est dans l'expectative. Les élections locales se tiendront à quelle date? Il n'y a pas de date. Pour nous, la date de la CENI ne tient pas la route. Et pour l'APR, c'est un impératif catégorique qu'on revienne pour déterminer une date consensuelle, une date voulue par la classe politique.
Voilà, vous venez de suivre Ousseini Salatou, porte-parole de l'APR, l'Alliance pour la paix et la République. Garé Amadou, quelle analyse vous inspire cette demande de convocation du CNDP et le sujet sur lequel il porte, à savoir les élections locales?
Oui, d'abord, j'aimerais quand même rebondir par rapport à... J'ai entendu mon grand frère Ousseini Salatou dire que la CENI a été créée pour les partis politiques. Bon, ça, c'est pas vrai. La CENI n'a pas été créée pour les partis politiques. La CENI a été créée pour organiser des élections. Donc, pour permettre non seulement aux partis politiques de compétir, mais aussi pour permettre aux Nigériens d'accomplir leurs devoirs citoyens. Très simple. Deuxièmement, concernant effectivement cette question d'organisation des élections locales avant la présidentielle, est devenu un objet de friction entre les partis politiques. C'est indéniable. Lors de la dernière réunion du CNDP, le 3 juillet dernier, il y a eu quand même au sein de la mouvance présidentielle, quelques points de vue divergents.
C'est ce qu'il dit. Il dit que la question est restée en suspens.
Maintenant,
ça n'a pas été
dans le fond, l'APR a le droit de s'offusquer ou de demander. Est-ce qu'elle peut demander une convocation de la réunion du CNDP? Moi, j'ai parcouru le règlement intérieur du CNDP et l'article 8 dit que les composantes qui composent la classe politique nigériennes peuvent demander la convocation, peuvent adresser une lettre au Premier ministre pour demander la convocation. Ces composantes, c'est quoi? Les partis de la majorité, les partis de l'opposition et les partis non affiliés. Mmh. Et on considère que l'APR fait partie du bloc des partis de la majorité. Mmh. Ce qu'il aurait fallu, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Hier, il y a eu une réunion au sein de la majorité. Mmh. Il aurait fallu que l'APR et la MRN s'asseyent, discutent, et maintenant, décide d'un commun accord qu'il faut reconvoquer une nouvelle réunion du CNDP, puisque cette question, l'organisation des élections locales avant la présidentielle n'a pas encore été
étudiée.
Elle est venue un peu en travers de la gorge de tous les acteurs politiques. Il fallait en discuter. Pour moi, pour question de procédure, ce qu'il y avait une mésentente déjà au sein de la majorité sur le fait de convoquer la réunion. Je crois que l'APR a tenté de rencontrer la MRN, mais ça ne s'est pas passé.
Et du coup, ils sont partis.
Oui, et c'était caduque, cette lettre-là ne peut pas, en tout cas, elle ne peut pas faire force de loi au Premier ministre pour qu'il convoque la réunion du CNDP. Il lui fallut que les partis politiques de la majorité se réunissent. Ce qu'ils ont commencé à faire hier et qu'ils vont continuer à faire le vendredi, selon les informations dont nous disposons, eh bien, c'est ce conclave-là entre partis de la majorité qui peut déboucher à une lettre de la majorité présidentielle qui demande la convocation de la réunion du CNDP. Mais quand même, même si cette réunion au sein de la majorité n'a pas eu lieu, il y a quand même eu le renfort des partis non affiliés qui ont eux aussi adresser une lettre. Alors, cette lettre des partis non affiliés...
Sur la même question.
Bien sûr. Cette lettre des partis non affiliés, sur la base de l'article 8 du règlement intérieur, peut en tout cas faire en sorte que le Premier ministre convoque cette réunion du CNDP. Donc, on s'achemine forcément vers cette prochaine réunion du CNDP.
Quels sont les enjeux, en fait, de ces élections locales avant les présidentielles?
Les enjeux sont nombreux. Vous savez, les partis politiques pensent que les élections locales peuvent permettre de savoir celui qui va être devant lors des élections.
Lors des élections présidentielles.
Mais c'est une donnée qui est trompeuse. Vous savez, lors des élections locales de 2011, le parti qui était arrivé en tête, c'était le PNDS. Et c'était le PNDS aussi qui avait pratiquement remporté la plupart des communes. Et enfin, ils avaient le plus grand nombre de conseillers. Donc, vous comprenez. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à quelques mois des élections, supposons même que la CENI aille dans le sens du desiderata de ces partis politiques-là. Vous savez, le grand problème de nos formations politiques, c'est la légèreté avec laquelle même on gère l'affaire politique, l'affaire des militants. Même pour la confection des dossiers, c'est problématique pour les partis politiques. Et je sais qu'on va organiser ces élections locales-là avant la présidentielle, puisque à ce rythme-là, c'est ce qui va se passer. Mais je vous assure, il y aura beaucoup de listes qui seront invalidées. Pourquoi? Parce que les gens...
Pour manque de préparation
ou... les gens... Il n'y a pas de sérieux dans la procédure de mise en place. Prenez un exemple. Si on prend les législatives, on vous dit que non, la loi dit que s'il y a un nom pour lequel il y a des problèmes, c'est toute la liste qui tombe. Et malgré tout, les gens font les mêmes erreurs. Soit il y a des erreurs de... Il y a des gens qui mettent des faux diplômes. On a vu ça par le passé. Même au niveau des partis de la majorité. Donc, il y a des gens... Donc ça triche. Et ce qui fait que quand on arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, eh bien,
beaucoup de choses sont invalidées.
Voilà.
Houssaine Issa, vous avez également suivi cette demande de l'APR. Voilà, Garé vient d'ajouter également que les partis membres des non-affiliés ont aussi abondé dans le même sens. Alors, qu'en pensez-vous de cette convocation sur le sujet justement des élections?
Bon, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que, pas seulement au Niger, mais un peu partout, même dans les pays occidentaux, les locales, les élections de proximité sont les plus importantes. Parce que c'est ça qui permet à un leader politique ou à une personnalité politique de savoir exactement
son poids.
Qu'est-ce qu'il pèse. Et c'est des élections de proximité. Et vous voyez un peu en France, un maire ou de tel département ou de tel département. Vous voyez, aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, ici, pratiquement tous les partis sont en train d'œuvrer pour que les élections locales se tiennent. C'est parce que, tout simplement, c'est à ce niveau qu'ils peuvent gagner quelque chose. C'est-à-dire que les conseillers, si tu travailles bien, tu mobilises, tu peux gagner quelques conseils. Ce qui n'est pas évident au niveau des élections présidentielles, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'élection présidentielle. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller aussi aux élections législatives. C'est pour ça que les partis sont sur de bonnes guerres. Parce que quand tu crées un parti, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Même si c'est le pouvoir local, c'est déjà quelque chose, on va compter avec toi. Mais tu crées un parti juste pour, comme avait dit, accompagner, ce n'est plus un parti. Mm. Voilà un peu l'enjeu. Hein. L'enjeu essentiel, c'est ça. Mm. Maintenant, la crainte, c'est quoi? Aller directement aux élections présidentielles et les législatives, sans faire les locales. Quand le premier tour des présidentielles plus les législatives, les résultats vont tomber, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que ça va orienter... Ça va donner la tendance. Ça dit que les élections locales, même lors des élections locales, parce qu'une tendance se dégage. Dès cette première élection-là, les premières élections, premier tour des présidentielles et comment dire, législatives, la tendance va se dégager.
Les gens voient. Les conséquences.
Mais les conséquences, c'est que les petits partis qui aspirent à avoir quelques conseillers, ils vont rien trouver. Voilà un peu l'enjeu. Et c'est pour ça qu'ils s'agitent. Et alors, même quand tu veux après monnayer, il faut que tu pèses quelque chose dans la balance. Sinon, tu ne vas rien gagner. Pourquoi on va composer avec toi? Juste dire que ah, je soutiens un tel. Ce n'est pas évident que la personne te donne après. Voilà un peu le gros problème. Et c'est ça qui fait que, même au niveau de la MRN, les gens
alors
cherchent...
Alors pourquoi c'est seulement l'APR qui a cette inquiétude?
Peut-être non, il n'y a pas que l'APR. Non, ce n'est pas que l'APR. Il y a aussi, Sanoussi s'est prononcé là-dessus. En dehors de Sanoussi, il y a d'autres partis de la MRN aussi. Des
là, je parle des mouvances. Hein.
Non, mais moi, je vais aller dans les détails pour te montrer que c'est l'enjeu. C'est-à-dire, maintenant, les non-affiliés aussi, ils considèrent que c'est là qu'ils peuvent faire quelque chose.
Qu'en est-il de l'opposition?
Mais l'opposition, bon, jusqu'ici, l'opposition est en train de se taire. Mais c'est sûr que c'est certainement qu'ils aussi, ils sont aussi intéressés par la question. Mais bon, ils ne veulent pas s'exprimer là-dessus, d'autant plus que ça divise déjà au niveau de ceux qui vont au niveau du
CNT. Les autres le feront à leur place. Là,
mais quand le travail que quelqu'un est en train de faire à ta place...
C'est de bonne guerre.
Maïmouna, alors, que pensez-vous de cette demande de la convocation du CNDP par l'APR?
Moi, je rejoins ce que Garé a dit et je rejoins également mon grand frère aussi, Ousseini, par rapport à l'APR, par rapport à leur agitation, parce que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'APR compte également sur l'échiquier politique, qu'on le veuille ou non.
Composé, il faut le dire, du MNSD
principal
et
oui.
D'autres partis.
Voilà. Donc, c'est bien normal avec tout ce que nous avons vu concernant les élections locales, parce que ça fait un bout de temps, que depuis 2011 qu'il n'y a plus eu d'élections local en tout cas pour ici au Niger, c'est bien normal qu'ils pensent que peut-être qu'en laissant ces élections locales pour aller aux législatives directement et présidentielles, peut-être ils vont retomber sur ça aussi. Pourquoi? Pourquoi pas? Il se pourrait. Je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être c'est leur inquiétude aussi. Donc, c'est comme l'a dit Garé Ousseini, il faut d'abord que ces gens-là, qu'ils partent vers la population. Pour voir en tout cas leur capacité, leur poids. Et c'est en fonction de ça qu'ils peuvent aujourd'hui prétendre aller aux élections législatives et présidentielles. Donc, je me dis que l'APR est dans son droit, mais c'est la procédure qui est biaisée. Et la procédure, c'est quoi? Parce que tout simplement, l'APR fait partie aujourd'hui d'un bloc. Et le bloc présidentiel. Donc, ça veut dire que la MRN, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'APR veut faire, il faut que ça soit d'un commun accord avec la MRN.
Surtout pour ce qui concerne la convocation du CNDP, qui est composé de trois blocs, c'est ça?
Voilà. Donc, aujourd'hui, si l'APR arrive à s'entendre avec la MRN sur la convocation du CNDP, c'est de bonne guerre. Ça veut dire que, déjà, il y a les non-affiliés qui ont demandé. Donc, on se dit que c'est les trois blocs qui ont demandé en même temps cette convocation. Et
les deux blocs?
Non, les deux blocs, en fait, qui ont demandé cette convocation. Et je pense que peut-être qu'à l'issue de cette convocation, ils pourront s'entendre et avoir véritablement une date pour ces élections locales. Mais de toutes les mille manières, on dit que le dernier mot appartient à la CENI, parce que c'est la CENI qui organise. Ce n'est pas le CNDP qui organise. C'est ce qu'il faut que ces politiciens comprennent. Parce que
et surtout qu'on a toujours parlé des CENI, Commission électorale nationale indépendante.
Ils peuvent donner une date. Mais si la CENI, la date aujourd'hui ne satisfait pas la CENI, mais je pense que ça ne peut pas se faire, hein, ça ne peut pas aller, il ne faut pas oublier. La CENI est là pour les élections, donc il faut laisser également la CENI répondre, donner par exemple, une date qui peut, où tout le monde peut être exact, tout le monde peut vraiment être favorable par rapport, donner son avis par rapport à cette date-là.
Qu'en est-il de la question de l'opposition politique nigérienne?
L'opposition,
qu'on n'entend pas,
l'opposition politique nigérienne tellement. Continue de faire la chaise vide. Mais l'un dans l'autre, ils sont, l'opposition est en train
Quelle
de suivre.
Quelle conséquence cela peut avoir, à votre avis?
La conséquence que ça peut avoir, on a vu par le passé. En 2016, on a vu ce qui s'est passé. On a vu quand l'opposition a demandé à ses militants de ne pas aller aux élections. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, encore, l'opposition continue de faire la chaise vide. Moi, je pense que la chaise vide, là, c'est pas ça qui va, en fait, faire bouger les choses. L'opposition devrait venir, hein, être écoutée, prendre des décisions aussi, parce que, comme on le dit, la CENI est là pour organiser des élections. Le CNDP est là pour que les partis politiques s'entendent entre eux, pour dégager vraiment l'avenir du Niger. Parce que c'est l'avenir du Niger aujourd'hui que nous sommes en train de... que les gens, les partis politiques sont en train de discuter de l'avenir du Niger. Et je pense que, de toutes les mille manières, que l'opposition soit assise à sa place au niveau du CNDP, que l'opposition ne soit pas assise au niveau du CNDP, les élections locales, on va les faire. Les élections présidentielles, on va les faire. Les élections législatives, on va les faire.
Gare Amadou.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous savez, cette situation, elle a quelque chose de très particulier.
Laquelle?
Vous avez la CENI, qui est composée de techniciens, qui sait les problèmes auxquels elle est confrontée. Et vous avez les partis politiques qui viennent, on a écouté Hussein Salah tout à l'heure dire qu'on sait que c'est possible. Ah non! Vous n'êtes pas les techniciens. Les partis politiques, là, ils cherchent tout simplement ce qui les arrange. Aujourd'hui, on veut forcer la main à la CENI pour organiser l'élection, alors qu'elle sait qu'elle est... Et quand elle va les organiser, quand on va constater des lacunes, ce sont ces mêmes partis politiques-là qui vont se mettre à insulter la CENI d'avoir mal organisé les trucs. La CENI, c'est les techniciens savent les problèmes auxquels ils font face. Quand ils vous disent que ça, là, c'est difficile, c'est pas vous, les partis politiques, qui cherchez tout juste à organiser un truc, ils disent oui, oui, on a écouté, ils disent non, tout le monde sait que c'est possible. Non, c'est pas tout le monde sait que c'est possible, non. Vous, les partis politiques, vous pensez que c'est possible. Les techniciens, vous dites non, c'est pas possible. Vous voulez les forcer la main. Eh bien, allons-y. Mais seulement soyez indulgents. Si les élections sont organisées,
sont mal organisées,
soyez indulgents parce qu'ils ont tout fait pour vous dire que c'est très difficile. Vous avez dit non. On l'a entendu, il dit que non, la CENI a été créée pour les partis politiques. Ce qui est faux, bien sûr. Mais c'est leur mentalité. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être pour la CENI d'expliquer de façon terre à terre les difficultés en question auxquelles
la CENI
on risque d'être confronté s'il faut organiser?
Elle a donné plusieurs chronogrammes. Ça, c'est en fonction des difficultés qu'elle a sur le terrain. Elle a donné plusieurs programmes. Maintenant, les partis politiques, ils veulent organiser une réunion du CNDP, n'est-ce pas?
Pour s'entendre?
Non. Pour forcer la main à la CENI pour qu'elle donne une date. Allons-y, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ces élections-là se déroulent normalement. Mais j'ai dit, moi, j'attends les gens au tournant. Le jour où les élections locales vont avoir lieu, là, et que je vais entendre des hommes politiques qui ont tout fait pour que ces élections locales-là soient organisées à la date qu'ils veulent, là, le jour où je vais les entendre insulter la CENI, je vous assure que c'est moi qui vais monter sur les plateaux.
Toi, le journaliste Gare Amadou.
Bien sûr, je vais rappeler aux gens, leur en conséquence, je vais vous rappeler, mais non, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est vous qui avez tout fait pour que ça soit comme ça. Et ils vous ont prévenu, vous avez dit non, c'est faisable. Voilà.
Bien. Maintenant, vous voulez dire quelque chose?
Non.
D'accord. Nous passons au dernier sujet donc, du forum de la presse d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, une importante saisie d'armes a été opérée par la brigade de la gendarmerie de Guédamroumji. C'est dans la région de Maradi. Il s'agit de 21 fusils de guerre et plusieurs munitions qui ont été présentés vendredi 10 juillet passé aux autorités administratives de la région de Maradi. Ce n'est pas la première fois que des armes sont saisies avec des civils un peu partout au Niger. Hussein Issa, comment expliquer cette circulation des armes au Niger?
Oui, c'est pas surprenant. C'est lié à la porosité des frontières. Vous savez, la région de Maradi aussi est dans une situation sécuritaire difficile. Il y a des gens qui viennent faire des raps, qui prennent du bétail, qui tuent, qui retournent vers le Nigeria, qui se replient sur le Nigeria. C'est dû au fait que, bon, les frontières et quelque part sont fermées, mais il y a quand même des poches, des couloirs de passage. Et certainement, c'est à travers ces genres de couloirs de passage que des armes ont pu... Ce n'est pas la première fois du reste qu'on saisisse des armes, aussi bien à Maradi Kagadez. C'est un pays vaste, difficile à contrôler.
Et aussi un peu Ottawa.
Voilà, et Ottawa aussi. C'est un peu difficile à contrôler. Et c'est ça la principale, comment dirige. Et vous voyez bien, même la crise sécuritaire qu'on connaît dans la région de Tillabéri et dans la région de Diffa, on n'arrive pas à l'endiguer. Déjà, font rentrer les armes, ils ont des couloirs de passage, ils ont des véhicules souvent qui, c'est notamment, qui transportent et ils viennent, ils ont des planques, ils déposent pour le besoin, comment dirige, pour s'en prendre aux populations, aux paisibles populations.
Justement, vous savez, quelles sont les hypothèses sur la pour la prévenance? On sait en tout cas, c'est un peu ses frontières avec les pays voisins, notamment Nigeria, ça et peut-être un peu la Libye. Et est-ce qu'on les hypothèses sur la destination justement de ces armes?
La destination de ces armes, moi j'ai dit, je viens de dire que la région de Maradi est aujourd'hui confrontée à une insécurité où on tue des gens, on prend leur bétail. Il y a des villages, il y a même des personnes déplacées aujourd'hui dans la région de Maradi.
Ouais.
Toute la bande frontalière, là, les gens, les villages qui sont sur la bande, tous, les populations sont descendues parce que tout simplement, ils ne sont pas en sécurité. Et certainement, c'est pour cet usage-là que ces gens ont fait rentrer les armes, parce qu'il n'est pas exclu que
vendre
ce soit...
Vendre à des individus non, qui non, vont non, par la suite.
Non, il n'est même pas exclu que ceux-là même qui font les attaques, que ce soit des gens qui vivent à Maradi. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu, c'est leur stock. Ils ont fait venir ces armes-là dans l'intention, certainement, de les utiliser dans le cadre des raps, dans le cadre des coups qu'ils font dans la région.
Maimouna Diallo, quelle analyse vous faites de cette situation de la circulation des armes au Niger?
La circulation.
Le pays est déjà confronté vraiment à un défi sécuritaire énorme de toutes parts.
Comme l'a dit
Tillabéri, Tawa, Maradi et Dosso également.
C'est un peu partout en fait la difficulté des armes qui transitent de région en région, de région en pays. Je me dis que aujourd'hui c'est le Niger qui est touché parce que quand vous regardez, il y a Tillabéri, nous avons l'insécurité à Diffa, Maradi n'est pas épargné, Dosso vers Dogandouchi n'est pas épargné. Donc qui sait demain c'est quelle région, le tour de quelle région, Niamey aussi peut être menacé, c'est par rapport à ça. Parce que en fait, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ces personnes, ces individus arrivent à traverser certaines frontières avec des armes d'une région pour transporter, aller dans un autre pays. Je me dis également, comme l'a dit Ousseini, c'est parce que c'est vaste.
Des frontières.
C'est même un peu vaste, en fait, parce qu'on ne peut pas avoir le contrôle de toute une région. C'est vrai. Parce que des fois, quand on regarde également, avec les frontières qu'on a, entre Maradi qui fait frontière au Nigeria, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour Maradi de faire face, en tout cas, à l'insécurité dans certaines localités de Maradi, comme Guidorumji. Il faut regarder Guidorumji, par exemple. Et je suis sûr que, en fait, nulle était la vigilance des gendarmes. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas vu, en fait, les armes là. Transiter, parce qu'on ne pourrait pas les récupérer.
Et
aussi.
Également, je crois qu'ils ont dû avoir des renseignements.
Ils ont eu des renseignements. Et ces renseignements viennent peut-être de la population aussi. C'est là où il faut encourager également
la collaboration
entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Parce qu'aujourd'hui, ça a amené aujourd'hui à ce qu'on a vu, la prise donc de ces armes-là. Et comme l'a dit le gouverneur, ces armes-là vont aller au Nigeria et ce sont les mêmes armes-là qui vont venir encore tuer des innocents ici à Maradi et dans
d'où l'intérêt pour les populations de collaborer.
Certaines régions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme vous voyez, Maradi est confronté vraiment, il y a l'insécurité. On tue des personnes, on enlève des personnes, on demande des rançons.
Ouais.
Tout ceci, c'est pour vous dire que vraiment, on n'est pas en sécurité. Nulle part ici, au Niger en tout cas, tu peux ne pas être en sécurité. Dans toutes les régions, les 8 régions du pays, c'est à toi d'être vigilant. C'est peut-être la collaboration de toute la population avec ces forces de défense et de sécurité.
Pour que des cas suspects puissent être signalés.
Oui, il faut que les populations comprennent que ces forces de défense sont là pour leur sécurité. Et en neutralisant ces malfaiteurs, ça veut dire que c'est la population qui gagne et non les forces de défense et de sécurité.
Gare Amadou.
pour dire que moi, quand j'ai vu cette quantité d'armes là, j'avais vraiment la chair de poule. Parce que je me suis dit, alors, c'est bien dans le domaine des hypothèses, hein, ces armes là, certainement, c'est pour, comme l'a dit Ousseini, comme l'a dit Memouna, c'était prévu pour alimenter le grand banditisme là, parce que la région de Maradi en souffre beaucoup, vous savez.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est devenu un commerce assez lucratif. Voler les bétails vers Madaroufa, c'est-à-dire vers la forêt, c'est une forêt touffue. Voilà,
oui, surtout Madaroufa. Oh, ouais.
Moi, j'ai été là-bas, j'ai vu une forêt dense. Mais vous avez peur, vous avez. J'étais parti là-bas et on voyait des gens à moto qui partaient, qui revenaient de la brousse. Et j'ai demandé à quelqu'un, mais où est-ce qu'ils vont ? Ils ont dit non, la frontière est là, tout à côté. J'ai dit, ah, j'ai dit, ça, c'est grave. J'ai dit, ça, c'est dangereux. Mais dès que vous partez là-bas, vous sentez qu'il y a une certaine insécurité. Vous sentez qu'il y a une tension au sein de là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, comme l'a dit Ousseini, il se peut que les bandits soient même à Maradi, parce que ça rapporte. Donc ces armes-là, c'était destiné à ça. Heureusement, les forces de défense de sécurité ont été vigilantes. Mais posons-nous la question. Ces armes-là ont été saisies. Combien ont pu passer entre les mailles du filet ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que les bandits.
Combien passeront si des dispositions ne sont pas prises ?
Oui, mais les bandits, ce ne sont pas des gens bêtes. Ils réfléchissent. Et ils s'adaptent à la situation. Ils se disent que, ah non, le corridor qui va vers Gadarumi, là, c'est dangereux. On change de chemin. Est-ce que vous comprenez ? Peut-être qu'au moment où on a fait la saisie, d'autres armes ont pu passer par un autre circuit. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire que, comme l'a dit Memouna, il faut vraiment espérer la collaboration des populations locales qui ont permis de mettre le grappin sur cette bande de malfrats, et ce groupe de malfrats. Et ce qui va permettre quand même de débusquer tous ceux qui sont en train de vouloir installer le banditisme, de vouloir le rendre un peu plus, enfin, un peu partout, un peu plus fluide dans le pays, et de tuer des innocents.
Merci à tous. Hussein, vous voulez ajouter quelque chose sinon nous
Ce que je veux dire, c'est que effectivement, tout à l'heure, Gary vient de dire des choses. C'est-à-dire, il faut pas minimiser, comment vais-je dire, les gangs qui s'adonnent à cette activité-là. C'est des gens, ils sont bien organisés. Ils savent à quel moment ils surveillent aussi les forces de défense et de sécurité. Et quand ils font leur opération, ils vont vers le Nigeria là. Ils ont des couloirs de passage qui sont là, méconnus. Ils vont, ils rentrent, ils reviennent. Voilà un peu toute la difficulté. Même quand il y a la collaboration de la population, il n'est pas toujours évident de pouvoir endiguer ça de manière définitive. Ça va continuer parce qu'ils ont pris goût à l'activité. Vous ne faites rien, vous prenez des armes, vous venez trouver un riche éleveur, vous le tuez, vous prenez son bétail ou vous enlevez quelqu'un, un peuple de famille.
Merci.
Bon, ben alors, vous pensez que du jour au lendemain, ils vont abandonner, mais vous voyez combien de brigands, de gangs on arrête, et quelques temps après, il y a des nouveaux groupes qui se forment. Voilà un peu la difficulté.
Merci Ousseini. Merci à tous. Nous sommes au terme du forum de la presse d'aujourd'hui. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes, suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur la contribution des artistes dans la lutte contre le coronavirus. Et dimanche, le forum en Zarma sur les dépenses ostentatoires lors des cérémonies de mariage au Niger. Merci à tous. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali et la régie vidéo assurée par Al-Mustapha Ayouba. Bonsoir.